Slate Podcast.
To know the function, the very serious function of racism, which is distraction.
Nous sommes en 1975, pendant une conférence à Portland sur les Black Studies.
It keeps you from doing your work. It keeps you explaining over and over again your reason for being.
Toni Morrison, auteure afro-américaine qui recevra le prix Nobel de littérature 18 ans plus tard, explique que la fonction du racisme, sa fonction première, c'est la distraction. Il vous empêche de travailler et vous oblige à expliquer encore et toujours votre raison d'être. Plus de 40 années après, Nadia se confronte au même problème dans son université. Comme on l'a vu dans le premier épisode, son prof lui fait vivre tant de micro-agressions qu'inconsciemment, elle met en danger son diplôme.
Chaque cours, j'arrive un peu plus en retard que le précédent. Et au bout d'un moment, vu que c'est un peu une discipline sur laquelle on s'interroge sur nos mécanismes inconscients, je commence à me demander pourquoi moi, qui suis normalement assez ponctuelle, que ce soit au travail ou en cours, j'arrive en retard et de plus en plus en retard. C'est-à-dire pas 5 minutes, pas 10 minutes, mais ça m'est arrivé d'arriver avec une heure de retard alors que le cours dure une heure et demie. Jusqu'à ce que j'ai un cours donc le matin et je dois me lever et je me réveille pas. Ce qui m'est jamais arrivé dans toute ma vie, sachant que j'ai plusieurs réveils. Et là, je me rends compte qu'il y a vraiment un truc qui se passe, un truc inconscient qui fait que je veux pas y aller. Et je mets tout en œuvre pour éviter un maximum de me confronter à cette ambiance un peu pernicieuse qui va, je sais, me mettre très mal à l'aise et me renvoyer à des choses sur lesquelles j'arrive pas encore forcément à travailler. Et c'est quand même fou parce que c'est un cours qui est très important et j'en viens à me mettre en danger au niveau de ma pratique future, parce que j'en viens à de moins en moins m'impliquer, à ne pas répondre aux expériences des autres, à ne pas parler de ma propre expérience, que j'ai un peu peur des réactions qu'il peut avoir. C'est vrai qu'une fois, mon ami a fait part d'une de ses expériences et quand je vois comment ça a été reçu par les autres élèves, je me suis dit, des fois, il vaut mieux ne pas parler. Et on en vient à se museler alors que c'est important de parler dans certaines situations. Et on en vient à mettre un peu en danger, on va dire, notre vie étudiante et professionnelle, juste parce que des petites choses font que ça nous plonge un peu dans le désarroi.
Et si son professeur ne signait pas son carnet de stage? Sans sa signature, impossible pour Nadia de poursuivre son cursus. La question la hante. Leurs attitudes à elle et à Esther, même si elles ne sont que défensives, pourraient prendre le pas sur leur véritable capacité. Et à qui pourrait-elle s'en plaindre après tout? Leur professeur est renommé, auteur de plusieurs essais, respecté dans l'académie. Serge Guimond, psychosociologue qui a collaboré à l'exposition « Nous et les autres » au Musée de l'Homme, le reconnaît.
La personne en position de pouvoir, sa survie n'est pas liée à celle des subordonnés. Donc elle va agir... en fonction de son stéréotype général des subordonnés, plutôt que d'être attentive aux caractéristiques personnelles des subordonnés. Donc, les élèves vont agir beaucoup plus en fonction de leur analyse des caractéristiques personnelles du professeur, plutôt que d'un stéréotype général du professeur.
À ce moment-là, j'imagine que ça a dû se voir de plus en plus sur nos visages qui ont été choqués par ces réflexions, parce qu'ils venaient toujours s'en défendre. Il venait nous dire des choses du genre « Non, mais vous savez, je suis pas raciste, hein, faut avoir ça comme ça, hein, faut avoir mes remarques d'une manière méchante, hein, voilà. Moi, loin de moi l'idée d'avoir un comportement raciste, hein, vous savez bien, si vous voulez qu'on valide, qu'on soit là, genre « Mais oui, oui, monsieur, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas raciste. » Et du coup, nous, on était un peu sur le ton, on peut pas officiellement, enfin, je veux dire, directement le remettre en cause. Donc, on était plutôt sur le ton de l'ironie, à l'air de dire « Bah non, pas du tout, enfin, loin de nous l'idée de vous cataloguer raciste, c'est pas votre genre. » Mais on n'allait pas dire directement « Si, monsieur, c'est chaud. » Du coup, on faisait un peu profil bas, tout en se permettant certaines remarques. Et le pire, c'est qu'il en rigolait, l'air de dire « Je sais que vous pensez que je suis raciste, je sais que je suis raciste, mais je sais que personne ne peut dire que je suis raciste. » Du coup, tout le monde maintenait ce climat de « il n'y a pas de racisme, mais on voit du racisme ». Vu qu'on s'est dit, à tort ou à raison, que ce qui avait l'air de déranger, ce soit qu'on se ligue, entre guillemets, qu'on s'assoit à côté, qu'on se parle, qu'on se ressemble, entre guillemets, ce qui nous renvoyait eux, on s'est dit qu'on allait arrêter de s'asseoir à côté, de se fréquenter, du moins au vu des autres. On s'est dit que ça allait sûrement cesser, du coup, le raffut qu'il y avait autour de notre amitié et de notre congrégation voilà, de négresse. Enfin, je sais pas comment ils voient ça. Mais on s'est dit que ça allait couper court à tout ça et que ça nous permettrait de passer une année plus tranquille. Le prof nous alpaque directement en demandant « Mais vous êtes fâché, prof, vous n'êtes pas à côté. » Et point, le fait qu'on n'est pas à côté, alors c'est ce qu'il voulait depuis le début. Un jour, j'arrive en cours. Je portais des tresses la semaine d'avant. Là, j'avais lâché mes cheveux. Et le prof arrête subitement le cours pour dire... Je voyais qu'il avait un regard interrogateur. Il me regarde et l'air de dire « Mais qui es-tu ?» Et là, il réfléchit 5 secondes. Il arrête le cours le plus naturellement du monde. Il réfléchit 5 secondes. Il me dit « Ah, mais oui, mais je t'avais pas reconnu. T'étais pas coiffée comme ça la dernière fois. » Et là, je me demandais à quel point j'étais différente. Bon, c'était que des cheveux à la base. Mais vraiment, pour lui, il y avait... Sachant que vers la même période, il y avait une des élèves de la classe qui s'était coloré les cheveux, ça lui passait totalement au-dessus de l'esprit. Mais là, apparemment, c'était tellement énorme qu'il y avait besoin d'arrêter le cours et de se poser des questions sur mes cheveux. Là, j'étais tellement pantoise que j'ai juste rien dit. Je me suis tue. Et le cours d'après, il a réitéré, il l'a fait encore. Mon ami est arrivé en classe avec une coiffure un peu rock. Et il a arrêté le cours pour lui dire qu'elle ressemblait beaucoup à Grace Jones, sachant qu'une petite confidence, elle lui ressemble pas du tout. Mais apparemment, pour lui, qu'elle soit noire et qu'elle ait des cheveux afro, c'était suffisant pour faire la comparaison. Et encore une fois, je me suis dit quel est l'intérêt à interrompre un cours quand même assez important pour discuter de ce qu'on fait ou pas avec nos cheveux. Surtout quand on garde en tête le fait qu'il va pas commenter de manière générale le physique des autres filles de la classe. Ça n'arrive presque jamais. Donc j'ai vraiment pu me dire qu'est-ce qu'il y a en nous de si différent qui fait qu'il a besoin de s'arrêter pour le contempler.
Vous vous souvenez de ma fameuse fête de l'épisode 1? De la façon dont elle a commencé? Par une personne qui me touche les cheveux. Ça n'a d'ailleurs pas été la seule personne à le faire de la soirée. Et pour beaucoup de femmes noires, les cheveux sont malheureusement souvent au cœur des micro-agressions, des réflexions. Le 29 avril dernier, je regardais la télévision. Thierry Ardisson a invité Stéphie Selma, une comédienne noire, pour parler de sa carrière, de sa vie. Mais le sujet dérive dès les premières secondes de l'interview.
Alors Stéphie Selma, rebonsoir. Ce soir, vous êtes notre invitée. T'es qui toi, mais aussi notre invitée. C'est quoi cette coiffure de ouf?
Bah, c'est ma vraie nature.
Ouais.
Donc, il y a un moment, il faut assumer.
Mais
avec plaisir.
C'est incroyable. Ils sont en quoi, les cheveux, là?
Mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de voir des filles qui, effectivement, assument leur afro. Et c'est bien parce qu'il y en a de plus en plus. Et il y avait une espèce de... Enfin, ça, c'est, on ne va pas faire toute l'histoire des Antilles, etc. Mais il y avait une espèce d'européanisation. Je vois même les grands-parents, quand à l'époque, on avait les cheveux comme ça, afro, va te coiffer, etc. Ouais, c'est,
ouais.
Donc ça vient loin, quand même.
Pour se coiffer le matin, on met les doigts dans la prise.
Ouais.
Alors, est-ce que vous mettez des fois des chapeaux, des... Des bah, bonnets.
Oui, ça arrive, hein. Je peux les attacher, je peux faire plein de choses, c'est ça qui est génial.
Vous mettez des bâches.
Après ces premiers échanges sur la coiffure de la comédienne, sujet qui reviendra plusieurs fois dans les 8 minutes d'interview, Ardisson tient tout de même à rappeler qu'elle fait partie du classement GQ des filles les plus sexy du monde. Sous fond de couleur, café, que j'aime ta couleur, café. Cette fascination assez paradoxale, je l'ai vue au cinéma aussi, dans le film d'horreur Get Out, réalisé par Jordan Peele. Chris, un homme noir, rend visite à la famille de sa petite amie blanche, Rose. Pendant une garden party, dont la majorité des invités sont blancs, Rose présente Chris à un couple de personnes âgées.
Chris, c'est Nelson et Lisa.
Comment allez-vous?
Oh, il est bel homme, celui-là.
Ah ouais? T'es beau, toi? C'est fou, ça, j'avais pas remarqué.
Oh, pas mal du tout. Anderson.
Oh oui, très intéressant.
Dis-moi, c'est vrai ce qu'on dit? C'est meilleur?
Waouh.
Dans cet extrait, l'invité à laquelle Rose présente son petit ami saisit le bras de Chris sans sa permission, pour tâter ses biceps. Et quand elle demande à Rose, est-ce que c'est meilleur? Elle sous-entend que des bruits courent sur les performances sexuelles des hommes noirs. préjugé auquel elle croit, visiblement. C'est ça l'essentialisation, comme le raconte Serge Guimond.
Dès qu'on rencontre une nouvelle personne, on va automatiquement la catégoriser. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? On la place dans une catégorie sans vraiment s'en rendre compte. Et se rattache à cette catégorie tout un ensemble de caractéristiques psychologiques qu'on appelle des stéréotypes. Et donc, on va percevoir la personne à travers un filtre qui est le stéréotype de la catégorie à laquelle elle appartient. Et avec l'essentialisme psychologique, on fait un pas de plus en arrivant au phénomène où les caractéristiques qu'on attribue à tous les membres d'une catégorie sont considérées comme reflétant l'essence de ces gens-là. Ça constitue l'essence profonde de la personne qui appartient à la catégorie et c'est une perception figée.
En février-mars, on arrive en cours, on discute assez normalement, on parle de nos expériences au fur et à mesure du cours, bon, une ou deux réflexions un peu limites, mais ça passe. Et à la fin du cours, il arrive qu'on aille voir le professeur, donc je me mets devant lui avec mon ami pour lui parler de quelque chose qui, totalement anodin, d'une feuille de présence, je ne me rappelle même plus tellement c'était inutile. Et le professeur nous alpague un peu à la fin du cours pour nous dire « Mais vous savez, je ne sais pas pourquoi vous réagissez un peu tout le temps comme ça. Enfin, je ne suis pas raciste, je ne sais pas pourquoi vous prenez comme ça mes remarques. Des fois, je vois que vous vous renfermez un peu. » Et là, on se regarde et on se dit peut-être que c'est le moment de lui dire pourquoi ça nous dérange à ce point, en se disant que peut-être ça va arranger les choses. Et du coup, on lui dit « Écoutez, monsieur, c'est vrai qu'on prend mal le fait que, par exemple, vous nous confondiez ou que depuis 7-8 mois, vous ne fassiez pas l'effort de retenir nos prénoms à nous alors que vous retenez ceux des autres. » Et en fait, il nous a coupé à un moment donné et il nous a dit « Non, mais aussi, vous, les Antillaises. » Et là, on a eu une réaction un peu épidermique, sachant que donc l'une de nous est Antillaise, l'autre pas du tout. Mais pour lui, il prend le parti de dire qu'on est tous les deux Antillaises parce que dans sa tête, on est toutes les deux racisées, on est tous les deux noires, en étant assises à côté. Donc évidemment, on vient forcément de la même cambrousse. Et au moment où on l'arrête pour lui dire que « Monsieur, enfin vous savez, oui, l'une de nous est Antillaise, mais l'autre pas du tout, vous pouvez pas présumer de l'origine des gens comme ça », il balaye ça d'un revers de main, l'air de dire « Non mais bon, voilà, c'est pas si important », et il remet par-dessus des remarques un peu limites. Et donc là, on commence à lui dire que c'est pour tout ce genre de choses qu'on finit par se renfermer et par plus trop parler en cours. Et au fur et à mesure qu'on en vient à débattre, il nous arrête, il nous coupe notre argumentation et il nous dit « Non mais vous savez, je dois vous dire, la raison pour laquelle je vous pique autant entre vous et moi, c'est parce que j'ai toujours eu une fascination sexuelle pour les femmes noires. » Et là, on s'arrête toutes les deux. On regarde notre professeur, que je rappelle que c'est notre professeur. On le regarde et on dit « Mais monsieur, vous mesurez ce que vous venez de dire ?» Et il dit « Oui, oui, mais chez moi, j'ai des livres de femmes noires nues. Enfin, elles sont magnifiques et tout ça, et tout ça. » On se rend compte vraiment que dans sa pensée, pour lui, on est deux noirs et on est ce genre d'objet, ce genre d'attraction, ce genre de petites personnes à part, en fait. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a les blancs de la classe qui, eux, ont chacun une identité, ont chacun un nom. Et il y a les deux noirs qui viennent du même endroit, ont le même physique et sont des petites fantaisies à but sexuel ou à but d'amusement ou de qu'importe. Un jour, on sortait de cours et déjà pendant le cours, il avait fait des petites remarques qui ne m'avaient pas trop plu mais à laquelle j'avais évité de répondre du genre « Ah mais voilà, faites pas la tête, je préfère quand vous souriez, vous êtes plus belle quand vous souriez » ou ce genre de choses. Et en sortant de cours, donc on se dirige vers les toilettes quand on le fait souvent. Et là, j'arrive, donc je suis dans le miroir pour me remaquiller. Et là, je vois le professeur dans la périphérie de mon regard et je me demande ce qu'il fait là, mais je réagis pas trop. Et là, il commence à nous parler un peu du cours, dire voilà comment le cours s'est passé. Et de but en blanc, il fait « Mais vous savez, vous êtes très belle et tout. » Et je le regarde et je me dis « Mais je dis merci ou je dis que son... » Sa réflexion est bizarre, parce qu'en plus, c'est vraiment de but en blanc. Et je me dis, bon, je vais pas réagir. Encore une fois, peut-être que je prends les choses trop à cœur. Je vais faire comme si c'était un compliment et je vais partir. Et donc, on relève pas. On en rigole en partant, l'air de dire, bon, c'est quand même un peu bizarre. Et le fait est que ça se reproduit plusieurs fois par la suite. Et à la lumière de ce qui nous a révélé après, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions et me dire peut-être que vraiment, il avait un imaginaire fantasmatique autour du sexuel qu'on représentait, qu'il n'arrivait pas à gérer, en fait. Il n'arrivait pas à gérer cet afflux de pulsions devant ce qu'on lui donnait à voir. Et après la révélation qu'il nous avait faite, il continue à disséminer ce genre de choses. Je me rappelle notamment d'une fois où j'étais arrivée en cours avec voilà, un peu des talons, un peu maquillée, genre de choses. Et j'étais arrivée avec 5 minutes de retard. Et il interrompt littéralement le cours pour me regarder m'asseoir. C'est-à-dire que je m'assois à l'autre bout de la salle et il me regarde entrer. Il me suit du regard jusqu'à ce que je m'asseye. Il fait un petit hochement de tête, l'air de dire « Ah oui, d'accord. » Bon, je n'ai pas relevé, je me suis assise l'air de rien. Et je me suis dit, on va pas. C'est encore dans ma tête, en fait. Je me suis dit, ça se trouve, je suis en train d'imaginer des choses. Mais avec en tête la révélation qu'il m'avait faite, je me suis dit, ça se trouve, à chaque fois qu'il me regarde, il a ça en tête. Et du coup, j'arrivais pas à me départir de l'idée que quand il me regardait, il voyait un peu, le genre de. la catégorie un peu ébonie sur les sites porno, l'image fantasmatique de la femme noire qui est un peu dévergondée, qui est là pour satisfaire l'homme blanc. Je me dis, ça se trouve, il me voit comme ça, genre un petit objet, un petit vagin à la noix de coco sur pâte qu'il peut utiliser à son gré.
Cette curiosité déplacée pour nos corps, nous nous y confrontons souvent en tant que femmes non blanches. Moi-même, je ne compte plus les fois où l'on m'a draguée en me disant « Je n'ai jamais couché avec une femme noire ». Pour Françoise Vergès, politologue et historienne, ce fétichisme résulte d'une construction ancienne.
Il y a un phénomène de fascination-répulsion qui se passe assez tôt, avec particulièrement donc chez les Européens, le côté « il faut que je découvre le mystère de cette personne qui n'est pas comme moi ». Et évidemment, en plus, n'oublions pas que les femmes esclaves étaient soumises au viol des Blancs, qui en même temps ne voulaient pas du tout reconnaître qu'ils avaient eu une relation sexuelle avec une femme noire. Donc à la fois attirés, puis à la fois punis. Les tortures envers les femmes noires sont très souvent focalisées sur leur sexe. Donc il y a vraiment à la fois l'image de la mama, hein, de la nounou, comme on voit dans Autant n'emporte le vent, et féline, sauvage, sexuelle, qui va faire perdre la tête aux Blancs.
Je me souviens avoir fréquenté un homme qui m'a dit pour plaisanter que si j'aimais la soumission, ce devait être sans doute à cause de mes ancêtres esclaves. On apprend que l'on n'est pas seulement une femme, mais une femme noire, en se confrontant à ces stéréotypes. C'est ce qu'a constaté Christian Poiret, docteur en sociologie et maître de conférences à l'Université Paris Diderot, et qui a aussi participé à l'exposition du Musée de l'Homme. Il l'a observé à travers une série d'entretiens avec de jeunes femmes noires.
Une bonne partie racontait parmi les choses qui leur ont appris qu'elles étaient noires, qu'elles étaient vues comme noires, et ce que voulait dire être noire, c'est effectivement des formes de renvoi, soit à une thématique de la sexualité plus ou moins sauvage, débridée, etc., soit des formes de renvoi à une animalisation, hein, on est proche de la nature, soit éventuellement la thématique de la souillure. Vous pouvez avoir ces différentes formes de stéréotypie qui peut être contradictoire, mais se retrouver, y compris dans le comportement d'une même personne.
Et en même temps, à la fois, la femme noire, elle est laide, elle est très... Enfin, il y a des descriptions, vraiment, dès le XVIIe siècle, absolument terribles. Elle n'est pas maternelle, elle n'est pas vraiment féminine, elle est masculine. Toute une série à la fois très féminisée et en fait masculinisée. De nouveau, un peu ce phénomène de visibilité, de forte visibilité, sexualisée, très sexualisée, et à la fois totalement dénié dans sa féminité.
Et selon la blogueuse afroféministe Mrs. Roots, le premier outil qui a consolidé cette image de la sexualité des femmes noires comme étant immorale et sauvage, c'est la presse occidentale. Mrs. Roots prend pour exemple la réception médiatique du spectacle de la Revue Nègre, avec pour tête d'affiche Joséphine Baker. Elle cite « C'est un paroxysme d'érotisme. Voyez ces mouvements animaux, ces instincts sauvages, ces corps possédés et ensorceleurs. En fait, il s'agit de ramener les femmes noires en permanence à une animalité pour mieux les déshumaniser.
Je me demandais pourquoi il continuait alors que clairement ça se voyait, comprenait pas bien ce qu'il disait. Je me suis demandé si c'était parce qu'il pensait qu'on pourrait rien faire, qu'il était intouchable. Mais je pense que surtout, derrière tout ça, il y a le fait que fondamentalement, encore aujourd'hui, il ne voit pas le problème de ce qu'il dit. Et qu'il ne se pose même pas la question de « on ne va pas en parler, on ne va pas le dénoncer », parce que je pense qu'il ne se dit pas même un instant que ses propos sont problématiques et qu'on puisse en offenser. Je pense que c'est un racisme qui est assez dissimulé, dans le sens où ce n'est pas le racisme auquel on s'attend. C'est-à-dire que voilà, le professeur ne nous a jamais traité de sale négresse, de bamboula, nous a pas dit « oh là là, mais voilà, vous êtes moins intelligente ou vous n'êtes pas très travailleuse », enfin, ce genre de cliché qu'on a, c'était pas aussi frontal. C'est pas le genre de choses auxquelles tout le monde va réagir, l'air de dire « monsieur, c'est super grave ». C'est plutôt le racisme qui te renvoie à ta race, l'air de dire « c'est une réflexion qui te fait prendre conscience que tu es différent ». Ça va pas être une attaque forcément dissimulée, mais ça va être toujours une réflexion qui te fait prendre conscience que tu n'es pas comme les autres.
Finalement, son professeur a signé son carnet de stage. Nadia entamera son Master 2. Elle a validé sa pratique de psychologue. On pourrait avoir l'impression que c'est une expérience de racisme ordinaire, comme la mienne. Mais en vrai, l'histoire de Nadia racontée dans ses deux premiers épisodes est une histoire de racisme dans un cadre institutionnel. En France, contrairement aux États-Unis, la race n'existe pas. Elle n'a pas lieu d'être, en tout cas officiellement. Pourtant, la race existe en tant que construction sociale. C'est la race au sens biologique du terme, conceptualisée au XVIIe siècle, qui n'existe pas. Et c'est justement ce concept mensonger que nous allons tenter de déconstruire sous l'angle de la génétique dans le troisième épisode de « Nous et les autres ».